Eh bien, je dois vous dire que j'ai d'abord Niminha, comme il se doit, et je vais dire bonjour, et c'est le pluriel de Niha. Déjà, savoir ça, je dois vous dire, lorsqu'on a affaire en Chine, j'ai pu constater combien ça peut être avantageux. J'ai remarqué que lorsque les visiteurs étrangers de haut rang se présentent devant un public chinois, je n'ai jamais entendu un VIP dire autre chose que Ni Hao. Or, Ni Hao, c'est le singulier de bonjour. Ni Mian Hao, c'est le pluriel. C'est pour ça que je vous ai dit Ni Mian Hao. Et je peux vous dire que chaque fois que j'ai dit Ni Mian Hao, j'ai reçu des applaudissements. Mais,
on s'est retenu.
Mon expérience en Chine tient plutôt au fait que j'enseigne là-bas. J'enseigne à des étudiants en relations publiques et j'enseigne en anglais. Je n'enseigne pas en chinois, je ne connais que trois mots de chinois, donc le pluriel de ni hao. Ce sont des étudiants de dernière année en relations publiques d'une université d'études internationales. Donc, et pourquoi ils veulent... Et le cours est obligatoire, le cours que je donne est obligatoire, parce qu'étant en relations publiques, dans une université d'études internationales, ils supposent qu'ils auront dans le courant de leur carrière soit à avoir à traiter avec des étrangers qui vivent en Chine, ou bien qu'ils auront à aller à l'étranger. Donc, c'est une initiation à nos usages sociaux, ce qu'on appelle communément le protocole, l'étiquette, les manières de table. Mais cette relation avec les étudiants me permet d'apprendre en même temps sur la Chine. Je dois vous dire que j'ai préparé mon intervention croyant que ce seraient des étudiants dans la salle. Et nous savons depuis quelques minutes que la plupart d'entre vous êtes déjà allés en Chine. Donc, je peux vous faire part de quelques expériences que j'ai connues là-bas et que vous avez probablement connues vous aussi. Avez-vous mangé? Demandez ça à 1h05, quand la conférence commençait à 12h30. Vous allez peut-être pour la plupart répondre « Non, je n'ai pas mangé ». Eh bien, c'est peut-être la question la plus étonnante qu'on m'a posée dans tous mes séjours en Chine que je fais depuis 2002. Je suis débarqué de l'avion le matin même à 10h. J'ai des rendez-vous dans l'après-midi. On m'invite à prendre une sieste. Et on vient me chercher à l'hôtel à 1h. Entre-temps, j'ai mangé des fruits. Je n'ai pas l'intention de dîner. Mais plutôt d'aller à mes rendez-vous. Et la personne qui me téléphone, qui est dans la hall de l'hôtel, la première chose qu'elle me dit au téléphone, « Avez-vous mangé? » Ah, je me suis dit ça, là. Ça, s'il me demande si j'ai mangé, ça veut probablement dire que lui n'a pas mangé et qu'il va m'inviter à manger, mais je ne veux pas manger. Et si je dis que j'ai mangé, il ne pourra pas manger. En fait, il m'avait simplement demandé « Comment allez-vous ?» C'est une expression que l'on entend parfois en Chine. Je dirais dans la Chine, il y a deux Chines, hein? La Chine contemporaine, la Chine traditionnelle. Fondamentalement, je crois pouvoir dire, et vous pourrez me le confirmer, que je crois pouvoir dire que sous des normes très modernes, comme on voit à Shanghai, comme on voit dans les grandes villes de Chine, la tenue vestimentaire, la musique contemporaine, beaucoup d'attrait pour la culture américaine, mais fondamentalement, c'est une société que je constate traditionnelle, et ça, j'ai pu le constater tous les jours. Et quand on dit traditionnelle, c'est qu'elle, je dirais pas carbure, mais qu'elle se régit à l'enseigne d'un mot que l'on connaît bien, qui est celui de l'harmonie. C'est un lieu commun de dire, en parlant des Chinois, que l'harmonie est une préoccupation constante dans leur gestion des rapports sociaux, et de la politique. C'est même un motto de la politique officielle chinoise. Au nom de l'harmonie, on justifie toutes sortes de mesures politiques, notamment en ce qui a trait aux droits de l'homme. Mais je peux vous dire que cette harmonie que Confucius a portée à des sommets, mais en fait Confucius reflétait simplement la société chinoise, elle se vérifie tous les jours dans tous les actes de la vie quotidienne. Par exemple, le fameux cas de ne pas perdre la face. Bon, alors ça, c'est un lieu commun concernant la Chine, ne pas perdre la face. Mais en réalité, dans toutes les sociétés, on ne veut pas perdre la face. Mais en Chine, ça va beaucoup plus loin. Il y a ne pas perdre la face soi-même et ne pas faire perdre la face à un autre. Parce qu'on craint en retour que la personne nous en tienne rigueur et que ce soit notre désavantage. Il y a donner de la face à quelqu'un. Donner de la face à quelqu'un, par exemple, si il y a un échange de cadeaux. Vous êtes allé en Chine, vous savez combien le rituel des cadeaux est un incontournable. Usage très ancien qui, je dirais, justement, ne s'est pas adapté au monde moderne. Parce que les cadeaux sont tellement systématiques, c'est un embêtement pour les étrangers. Mais ça, vraiment, voilà une tradition ancrée dans la culture chinoise qui, encore aujourd'hui, est pratiquée sur une large échelle. Et lorsqu'une délégation part pour la Chine, la préoccupation, c'est les cadeaux. Qu'est-ce qu'on donne? Quand est-ce qu'on les donne? Eh bien, on les donne systématiquement. Mais il y a donner et façon de donner. Je peux remettre un cadeau au recteur de l'université et également au directeur du département où j'enseigne. Qu'est-ce que je ferais, moi, en tant qu'occidental? Je donne mon cadeau au recteur de l'université. Ensuite, je présente le cadeau au directeur du département. Mais pour donner de la face au recteur, je devrais remettre le cadeau destiné au doyen de la faculté, le donner au recteur, qui, lui, va le remettre au doyen de la faculté. Parce que c'est aussi un geste d'autorité. Si je donne un cadeau à un de ses employés, c'est moi qui reconnais son mérite. Ce n'est pas à moi de reconnaître le mérite de l'employé d'un patron. C'est le patron qui va remettre le cadeau. C'est sûr qu'il ne va pas... En présentant le cadeau au recteur, je mentionne bien sûr que c'est pour le doyen de la faculté qui m'accueille dans ses cours. Et ne pas perdre de la face, c'est aussi... On va agir beaucoup de façon détournée. Pour nous, en occidental, ça va apparaître comme une façon hypocrite. Par exemple, on veut me faire un reproche ou on veut me faire une remarque désobligeante en ce qui a trait... Peut-être je vais vous donner un exemple que j'ai bien connu. Pendant que je dirigeais le pavillon de Montréal à l'Expo, j'avais un problème avec un membre de mon personnel qui était en relation avec l'administration de l'Expo. Et du côté de l'Expo, on était très insatisfaits de cette relation. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, en Occident? On m'aurait invité à un entretien et on m'aurait dit, vous savez, votre employé, eh bien, ne sont pas très à l'aise. Et est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur autre que le vôtre, que cette personne? Pas du tout ce qu'on a fait là-bas. Comme on savait que j'étais en relation étroite avec la délégation du Québec, on a plutôt contacté la délégation du Québec qui m'a fait part du malaise que l'on avait avec mon employé. Et pourquoi fait-on ça? C'est au cas où je décide de maintenir cet employé en place. À ce moment-là, c'est le Chinois qui perd la face. Hein? Ou bien eux, en me disant que j'ai un employé avec lequel ils ne s'entendent pas, ils vont me faire perdre de la face. Alors, on a recours à un intermédiaire. Et c'est un conseil qu'on donne régulièrement aux délégations qui vont faire affaire en Chine, d'avoir un intermédiaire. D'abord, c'est toujours commode d'avoir sur place quelqu'un qui connaît bien le terrain, mais c'est aussi pour éviter les désagréments qui vont empêcher ensuite une communication qui soit fructueuse. On parle de politesse en Chine, on parle d'harmonie, et donc on parle de politesse. C'est un lieu commun de dire que, du côté, pour ce qui est des Chinois, la politesse est très étendue, elle est complexe. C'est le cas, en fait, de tous les peuples d'Asie. Si on compare au Japon, la politesse est élevée à des sommets inégalés. Mais il demeure que pour un occidental, la politesse à la chinoise nous apparaît d'une complexité et parfois même qu'on trouve que c'est au fond de l'hypocrisie. Dites-vous qu'ils pensent exactement la même chose de nous et que notre politesse quotidienne à laquelle nous sommes habitués, pour eux, leur apparaît carrément du chinois. Ils ne connaissent pas exactement la portée de nos gestes. L'exemple le plus connu, c'est celui de la remise de la carte de visite. Hein? Alors, je vois qu'on opine de la tête. C'est un exemple que l'on donne régulièrement et que l'on connaît lorsque l'on va en Chine, remettre sa carte de visite. Eh bien, nous, on remet la carte distraitement et l'autre personne prend la carte tout aussi distraitement. C'est une formalité à laquelle on ne s'attarde pas. Eh bien, ce n'est pas le cas en Chine. D'abord, on remet la carte des deux mains, hein, ce qui est déjà... Parce que notre nom est sur la carte. Et au point de vue symbole, pour un Chinois, cela veut dire quelque chose. C'est une extension de ma personne. je donne la carte du bon côté, pour pas que les Chinois aient à la tourner. Alors, je la donne du côté qu'ils vont la lire immédiatement. Le Chinois la prend et la regarde. Il ne fait pas comme nous, on prend la carte, puis on la remet tout de suite dans la poche. Il va la regarder quelques instants, ce n'est jamais très long, quelques instants, et la déposer devant lui. Mais c'est un côté très, très pratique. Les noms occidentaux, ils ne les connaissent pas, pas plus qu'on connaît, nous, les noms chinois. Et lors des présentations, on a beau entendre les noms, les titres, on ne sait pas de qui il s'agit. On n'entend pas les noms, on ne les retient pas. En ayant le nom devant soi, la carte devant soi, le nom et le titre nous dit à qui s'adresser. Ah, on vient de me présenter l'adjoint du directeur. Et là, c'est le directeur. Il faut que je m'adresse au directeur, non pas l'adjoint du directeur, parce qu'on respecte la hiérarchie. L'harmonie sociale suppose qu'on respecte la hiérarchie en toute occasion. Et ça se reflète notamment dans les plans de table. Les plans de table. Quand j'enseigne ici à mes étudiants en relations publiques le cours sur les plans de table, d'abord, la plupart apprennent qu'on fait des plans de table. Et la première question qu'ils posent, c'est pourquoi faire des plans de table? Eh bien, je vous dirais qu'avec mes étudiants en Chine, lorsque je parle de plans de table et que j'explique nos plans à la chinois, à l'occidental, 3, 4, 5 mains se lèvent tout de suite. Où est la porte, me demande-t-il? Où est la porte? Parce qu'en Chine, on fait des plans de table au quotidien, en famille, avec les amis, en affaires. Ils le font spontanément. Eux-mêmes, probablement, ne disent pas « je suis en train de faire un plan de table ». Ils l'apprennent très tôt à la maison. Et pourquoi parle-t-on de la porte? C'est qu'on ne va pas asseoir la personne la plus importante dos à une porte. C'est un minimum dans un plan de table. Et par la suite, on assoit les gens en conséquence. D'ailleurs, je me souviens, lors de ma première tournée de conférences, le premier jour, je donne une première conférence le matin, je suis à Pékin, à l'école, à l'Institut diplomatique de Pékin, et on m'informe à la pause qu'il y aura un banquet en mon honneur le midi. Un banquet en mon honneur. Oh là là, nous, un banquet, c'est 100 personnes, c'est beaucoup de monde. J'arrive dans la salle, nous étions 3 dans la salle. On appelle banquet tout repas que l'on prend avec des étrangers ou dans une circonstance spéciale. Mais quand on dit banquet, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Mais pour eux, c'est la formule courante pour dire que l'on fait un repas spécial. Mais je vous dirais qu'on n'y a que 3 à table. Et vu ma déformation professionnelle, les plans de table, c'est une question que je me pose quand nous sommes assis à un restaurant ou enfin à des occasions spéciales. Et là, je remarque que je ne suis pas à la place d'honneur. Et je me suis dit, oh, mais c'est vrai, je ne suis pas un PhD, je suis dans une institution université, c'est les PhD qui ont le haut du pavé, et donc il est normal que moi, simple conférencier, n'ayant pas un titre aussi prestigieux, je ne sois pas assis à la place d'honneur. Et les banquets se sont succédés chaque jour d'une université à l'autre pour constater après une semaine que j'étais à la place d'honneur depuis une semaine. Parce que d'abord, je n'étais pas dos à la porte et j'étais assis à la droite de chaque fois de mon hôte. Plan de table qui correspond à l'harmonie. Maintenant, les usages à table. Pour nous, manger avec un couteau, une fourchette, une cuillère, ça va de soi. Je vous dirais que mes étudiants en relations publiques sont en quatrième année. La plupart d'ailleurs, la grande majorité, ne viennent pas de Shanghai, mais viennent des provinces, d'autres provinces de Chine. Ont vécu toute leur vie jusqu'à l'âge adulte en famille, dans leur village ou leur ville éloignée, et donc ont toujours mangé des baguettes. Et imaginez que le cours le plus couru, le plus apprécié, où j'ai le plus de questions, le plus d'intérêt, qui dure le plus longtemps, c'est le cours de manière à table. Mais je suis devant des gens qui n'ont jamais tenu un couteau ou une fourchette de leur vie. Le premier réflexe, c'est d'utiliser le couteau et la fourchette comme 2 baguettes pour prendre la nourriture. Mais inversement, enfin là, je ne vous parlerai pas de nos usages à nous, mais de leurs usages à eux. Alors déjà, les baguettes, c'est un défi. Mais dans quel ordre mange-t-on? Normalement, nous, lorsque, si je vous invitais au restaurant, quelques-unes d'entre vous, que j'offre le repas, il y a voilà, le menu, on fait nos choix, et puis c'est moi qui vais attaquer en disant, voilà, allez, hein, bon appétit, et je vais commencer à manger. C'est moi qui ai le leadership du repas. Mais en Chine, c'est l'inverse. On s'attend à ce que ce soit l'invité d'honneur qui commence à manger. Imaginez qu'à mon premier banquet, je ne commençais pas et le doyen de la faculté ne commençait pas lui non plus. Après un certain temps, avant de commencer à manger, lui attendait que je commence et moi j'attendais qu'il commence. Bon, alors ça c'est une chose. C'est donc l'autre qui doit commencer à manger. Mais la nourriture, d'abord, nous vient à des plats successifs, 10, 12, quantité énorme de plats. Mais quand on n'est pas habitué et qu'on voit les premiers plats, ben on pense, nous, c'est trois plats, hein, le repas du midi. On n'imagine pas qu'il y en aura 10, 11 ou 12. Et les plats se succèdent. Mais on doit simplement goûter un peu de chaque plat, qui est toujours sur, comme on voit dans nos restaurants chinois, sur une plateforme ronde qui va tourner devant nous. Ah bon, mais qui tourne la table? Ça ne devrait pas être l'invité qui tourne la table, c'est plutôt l'autre qui s'occupe de ses hôtes en tournant la table. Mais me croyant assez familier, j'ai commencé à tourner la table moi aussi. Et comme je vais souvent là-bas et que je retrouve toujours mes collègues profs d'université, ils sont devenus un peu familiers et ils osent maintenant me faire des remarques. Ils ne craignent pas que je perde la face. Et on m'a fait remarquer la dernière fois que quand je pose les doigts sur le dessus, alors que je dois tourner la table par le pouce. Parce que par-dessus, je fais une marque de doigt sur la vitre, ce qui n'est pas conforme à l'usage. Au sortir de la salle, il y a deux portes battantes et je viens pour sortir. Ben, j'ouvre la deuxième porte. On me fait remarquer que ce n'est pas à moi d'ouvrir la deuxième porte, qu'il y a quelqu'un pour ça. Il faut dire que là-bas, le personnel de service est nombreux, beaucoup plus nombreux que nous. Et ce qui, avec ce personnel de service très nombreux, ça permet d'ailleurs de multiplier les usages de politesse, puisqu'il y a toujours un personnel qui se trouve près de nous. Quand on dit harmonie, donc c'est dans le, ça va se refléter à table, et dans la gestuelle. Ce n'était pas mon étonnement lorsque on demande à quelqu'un une direction, par exemple, peut-être sur la rue ou dans la hall de l'hôtel, et demander où se trouve l'ascenseur. L'ascenseur est là, mais on me fait le geste que l'ascenseur est par là. L'ascenseur est par là. Non, l'ascenseur est là. Je me disais, mais pourquoi montre-t-il la main de cette façon? Dans un premier temps, j'ai pensé que ça voulait dire qu'il ne voulait pas montrer du doigt. Je me suis dit donc qu'il montre plutôt la paume de la main. Mais j'ai appris récemment que c'était plutôt par une forme de respect et d'humilité. Parce que montrer la porte comme ça, c'est donner un ordre. On ne donne pas d'ordre. Ça perturbe l'harmonie. Donc, on va plutôt montrer où est l'ascenseur en montrant la paume de la main, alors que pour nous, c'est le bout des doigts qu'on regarde, alors que c'est la paume de la main qu'on doit regarder. Donc, une gestuelle qui est différente de la nôtre et qui ne doit pas nous décourager. Et les jugements que l'on peut porter sur ce qu'on estime impoli chez eux. Tiens, on dit les Chinois sont impolis, mais combien de fois j'ai entendu, mais pour ceux qui sont allés en Chine, vous y êtes allés, mais comment dites-vous que les Chinois sont si polis? La foi du bon Dieu, ils ne font pas la file pour prendre un ticket, ils vous bousculent dans le métro. Ah, c'est qu'il y a une différence entre, pour ce qui est de la politesse, entre eux et nous. Nous, la politesse s'exerce en tout temps, autant envers un inconnu qu'envers quelqu'un que l'on connaît. On heurte quelqu'un en marchant, on dit « pardon, hein, on s'excuse ». Tandis que là-bas, la politesse s'exerce envers ceux que l'on connaît ou envers ceux avec qui on est en relation ou on va être en relation. Ce qui fait que me heurter, moi, si je suis à un banquet, on va s'excuser. Mais si je suis à attendre pour acheter un billet d'avion et que là, on va me bousculer, personne ne va s'excuser parce que je suis un inconnu. Hein. Je téléphone, je me trompe de numéro de téléphone, on ne dira pas, ben, je vous en prie, si je m'excuse, on raccroche immédiatement. Je suis un inconnu. Donc la politesse s'exerce envers ceux que l'on connaît ou que l'on va connaître, un étranger que l'on va vous présenter.
Louis Dussault.
Mais une dernière chose.
La dernière.
On se dit, ces gens, des gens si polis, une ancienne culture, plusieurs fois millénaires, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils crachent par terre. Ils crachent de moins en moins, parce qu'il y a maintenant des règlements pour ne pas cracher par terre. Vous savez, nos usages de politesse dont nous sommes si fiers, dont l'exemple vient de France ou d'Angleterre. Imaginez qu'à Londres, on vient de retirer un règlement municipal qui obligeait à faire la file pour prendre l'autobus. Ça veut donc dire qu'on ne faisait pas la file auparavant. Bon. En Chine, il y a maintenant un règlement qui conseille de cracher par terre. Mais imaginez que pour eux, cracher par terre, traditionnellement, était un acte d'hygiène. Quand ils nous voient, nous, nous moucher dans un mouchoir, ils nous trouvent mais d'un dégueulasse innommable. On garde comme ça dans nos poches ce qu'on retire de son nez. Vous vous rendez compte, Donc, traditionnellement, il était beaucoup plus correct, hygiénique, poli de cracher par terre que d'utiliser son mouchoir.